Salut, c'est Champ Libre. Parfois, malgré notre volonté, l'actualité nous rattrape. Je crois avoir dit plusieurs fois depuis 6 mois, 1 an, que je n'avais pas envie de transformer cette émission Champ Libre en nécrologie permanente du rock, du blues, du jazz et toute la musique que j'aime. Malgré tout, il y a quand même des disparitions qui nous filent une sacrée claque dans la gueule. Tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Mais la disparition de Prince me touche largement autant que celle de David Bowie il y a quelque temps, et de plein d'autres qui risquent d'arriver dans les années qui viennent. Je ne voudrais pas nous porter la poisse.
Oui,
après tout, cette musique a l'âge de ses artères, les miennes ne sont pas toutes jeunes non plus, et comme paraît-il, on n'est pas immortel, quoique ces gens-là le sont peut-être.
Ils le sont, assurément.
Voilà, donc ce soir, on va pas parler de Prince pendant 1 heure, parce que ça serait que de la redite, et puis vous savez de qui on parle. Ça sera donc aussi l'émission dans laquelle j'accueille mes invités mensuels.
Bonsoir.
À savoir Damien pour le métal.
Bonsoir.
Et Joe pour les images qui bougent.
Et oui, bonsoir.
Donc on parlera cinéma, on parlera actualité métal. Et on écoutera Prince. Alors, quelques mots quand même. Prince, ça aurait été un fou de l'héroïne et des sports extrêmes. On aurait pu imaginer, un peu comme Lemmy dont on parlait hors antenne, qu'il aurait pu disparaître un peu prématurément. Mais là, c'est pas du tout l'image qu'il donnait. Et puis 57 ans, c'est que dalle. J'en connais qui ont bien plus que ça, qui n'ont pas envie de mourir tout de suite. Et puis Prince, on va peut-être s'en rendre compte dans quelques temps, mais c'était quelqu'un qui a apporté énormément à la musique noire. Alors, il n'aurait pas aimé, je crois, qu'on dise ça, parce que lui, il pensait simplement apporter à la musique.
En tout cas,
ici, dans Champ Libre, j'ai envie de dire que pour moi, Prince, c'est l'héritier direct de James Brown, de Otis Redding, mais surtout de Jimi Hendrix. C'est pour ça qu'il intéressait énormément le public blanc. C'était un gars qui avait la classe. Tous ses concerts étaient, je pense pas qu'on puisse faire mieux au niveau spectacle que les concerts de Prince. Il paraît que, j'ai jamais eu la chance de voir ça, les after shows pour quelques invités de prestige dans les boîtes de la région pouvaient durer 3-4 heures et que ça valait quand même le détour. Et puis, c'était un mec qui était extrêmement curieux et qui a été capable de mélanger des tas et des tas de musiques et de styles différents pour faire cette musique qui arrivait à faire danser, ou en tout cas, comme il disait, bouger votre cul au masse. Joe, tu voulais...
Moi, je trouve qu'après Bowie, c'est quand même deux artistes dans ce qu'on peut définir l'art dans sa totalité, c'est-à-dire que c'est deux artistes complets en fait qui viennent de nous quitter coup sur coup. Ça fait bizarre, ça fait vraiment la sensation qu'une page se tourne en fait juste après le 20e siècle comme ça, que le 21e se tourne voilà sur l'absence de ces deux. Le 21e siècle commence sur l'absence justement de ces deux artistes, cette disparition de ces deux artistes, ça va beaucoup nous manquer en tout cas.
Voilà, alors je vous propose tout de suite d'écouter un titre de Prince. J'ai pas voulu taper dans les albums les plus connus, parce que Purple Rain, il nous le passe en boucle en ce moment à la
télé. On dirait qu'il a fait qu'un sur les ondes, on dirait qu'il a fait qu'un
voilà,
morceau en fait.
Ou Kiss, ouais. Voilà. Donc je vais taper dans des albums ou dans un album en tout cas qui a été extrêmement mésestimé parce que les critiques ont été sacrément méchantes pour les 20 derniers albums de Prince. Alors que voilà, je pense que beaucoup de musiciens aujourd'hui aimeraient avoir eu la disco qu'il a, y compris dans la partie la plus controversée. Alors l'album qu'on va écouter dans un premier temps, c'est un album de 2006. Il s'appelle 3-1-2-1, alors 3-1-2-1. J'ai pas eu le temps de chercher ce que ça signifiait, est-ce une date ou simplement un chiffre. Et le morceau, c'est Satisfied, et Prince prouve qu'il est en ligne directe héritier des grands de la musique soul. Before we get started, are we all alone? 'Cause I'm about to get open hard. It's time to send your company home and turn off your cell phone. I just wanna get you satisfied. Satisfied. This is gonna be a long night. Long. A little bit longer afternoon. Girl, if we get this thing right, oh, you're gonna get satisfied real soon. Say, can't you see? I'm just trying that I wanna get you satisfied. Ooh. Satisfied, yeah. Like a lover sailing all over the sea, till I discover, babe, the land beyond expertise and chastity. I'm just trying, I'm just trying to get you tell you, baby, all tricks aside, I can get you out of your body. Have you ever felt like you were dying and felt satisfied? Satisfied, bah, pas trop. Prince n'est plus là. On écoutera d'autres titres de Prince pendant cette émission. Joe, tu vas nous parler d'un film.
Bah, d'une nécrologie aussi, oui. Et d'un film, mais enfin plutôt d'une nécrologie d'un projet de film mort dans l'œuf en fait. C'est l'histoire d'un naufrage, effectivement. Donc, bon, on sait que l'histoire du cinéma est quand même jalonnée de nombreux naufrages, que ce soit des films jamais terminés comme It's All True de Orson Welles ou Le Don Quichotte de Terry Gilliam. Il y en a d'autres qui restent à l'état embryonnaire ou à l'état de fantasme, on pourra dire. Là, ce sera le cas. Comme le tournage, par exemple, de Napoléon de Kubrick. Là, c'en est un autre. Le réalisateur, Frank Pavich, évoque dans Jodorowsky's Dune ce qui aurait dû être le quatrième film de l'ancien membre du mouvement Panique, à travers cette adaptation du roman Monstre de Frank Herbert Dune. Alors le contexte, en 1975, Alejandro Jodorowsky a réalisé trois films, Fando et Elis, en 1968, en 70, l'extraordinaire et mythique culte El Topo, et en 73, le fabuleux Montagne Sacrée, un trip littéralement halluciné, d'une maestria époustouflante. Donc après sa rencontre avec Michel Sédoux, producteur, Jodo souhaite réaliser un projet digne des visions offertes par l'ingestion de drogues diverses, en particulier le LSD. Un projet démesuré et qui doit changer pour lui, en tout cas c'est son ambition, l'histoire du cinéma. Donc son choix se porte sur le roman de Herbert, réputé inadaptable, et d'ailleurs bon, au passage il suffit de voir le film réalisé par Lynch pour s'en rendre compte, hein, et pour confirmer cette réputation de roman inadaptable.
Puis, il faut voir également que le roman sur une étagère de bibliothèque, ça doit être 1m50 de papier.
Oui, 1m50, c'est ça.
C'est comme adapter la Bible.
C'est ça. Et bon, soit dit en passant, Alejandro Jodorowsky voulait adapter le roman de manière quand même très libre, à la Jodorowsky justement. Et pour montrer justement à tous cette nouvelle expérience de cinéma de science-fiction, qui à l'époque, hein, il faut bien le dire, n'est qu'une ébauche, hein, il n'y a eu que 2001, l'Odyssée de l'espace, vraiment, de Kubrick, qui a fait découvrir aux spectateurs la science-fiction, Jodo fait appel à une kyrielle d'artistes qui sont devenus majeurs depuis, donc attention les yeux, le designer et peintre Hans Rudi Giger, le dessinateur Jean Giraud, alias Mobius, pour le storyboard, les groupes Pink Floyd et Magma, pour la musique, l'acteur Orson Welles pour le rôle du gargantuesque baron Harkonnen, Mick Jagger également, Salvatore Dali dans le rôle également de l'empereur Padishah Shaddam IV, et enfin Dan O'Bannon pour le scénario.
Et Amanda Lear.
Et Amanda Lear, exactement.
Amanda qui est la muse de Salvador Dali à l'époque.
Tout à fait, tout à fait. Donc tout est prêt pour le tournage et décor. Le planning ne manque que 5 millions de dollars pour boucler le budget. 5 millions qui n'arriveront jamais dans la mesure où les majors, parce que là, d'habitude, Jodorowsky se débrouillait toujours pour financer son film. Là, c'était en grande partie financé par des majors qui décident de ne pas embaucher Jodorowsky parce que le personnage est trop fantasque, paraît-il. Donc le film s'arrête, le projet est abandonné. Donc ce qui est bien triste quand on voit le délirium visuel et narratif qu'aurait pu être ce film. Alors Frank Pavlich, à travers son film, pour ma part, réalise un excellent documentaire, à la fois tendre, passionnant. Tout d'abord parce qu'on voit en tant que spectateur la conception progressive de cette véritable folie des grandeurs, au gré d'interventions diverses des protagonistes, des planches magistrales de Mobius pour le storyboard, des extraits du scénario. Le film est constellé d'anecdotes et de documents rares et exceptionnels. Certaines scènes, notamment la scène d'introduction qui est décrite par Jodorowsky, qui devait faire 5 minutes, entièrement imaginés par Jodorowsky, sont réalisés via une animation du storyboard, ce qui accroît davantage notre frustration sur ce qui aurait pu être quand même cette expérience unique et assez incroyable. Donc au-delà de cette impression de frustration et de gâchis qui prédomine, le film est néanmoins parcouru d'un humour délicieux et d'anecdotes hilarantes à travers la personnalité haute en couleur de Jodo, d'ailleurs une anecdote génialissime sur Pink Floyd, mais je vous laisse découvrir. Et Jodorowsky n'est jamais amer, il n'est jamais avare aussi de petites histoires croustillantes et géniales, et c'est vraiment à savourer, et même si le film ne s'est jamais fait, ne se verra jamais, il a quand même, je dirais, contribué assez nettement à l'émergence de la science-fiction, hein, au cinéma, et à l'idée selon laquelle le cinéma n'avait pas à ce moment-là exploité toutes ses capacités visuelles, techniques et narratives. Par exemple, 2 ans plus tard sortira Star Wars, 4 ans plus tard sortira Alien, avec au scénario Dan O'Bannon et au décor Hans Rudi Giger, surtout à travers un matériau, je dirais, de base, des dessins préparatoires et de scénarios qui ont circulé un petit peu de partout dans toutes les maisons de production. Voilà.
On pourrait rajouter dans les films qui ont récupéré le matériau directement à la source. Donc, tu disais Alien, effectivement, les décors.
Les décors de Giger.
Tout a été créé pour Dune.
Complètement.
Les Inventariés de l'Arche perdue.
Ah, oui,
Terminator,
oui.
Les Maîtres de l'Univers, Prometheus.
Ils ont pioché ça et là, hein, de toute façon, hein, à travers des bribes de décors, des bribes de personnages, des bribes de costumes. Ça a vraiment été un petit peu à la foire. Ils se sont vraiment servis dans le storyboard pour constituer et pour disperser, je dirais, ces idées dans tel ou tel film, en fait, au fil des décennies.
Alors, on peut dire que cette chose, avec un grand C mythique,
ah oui. Oui.
Qu'est le Dune de Jodorowsky, a fait couler beaucoup d'encre depuis. Ce qui serait intéressant, c'est de se pencher sur ce qui a été fait à partir du Dune de Frank Herbert. Alors, Frank Herbert, grand écrivain de science-fiction des années 50-60, Dune, c'est carrément un chef-d'œuvre. En plus, de sur la route de Kerouac, dans le sac à dos des hippies de l'époque, il y avait le premier volume de Dune, puis le Messie de Dune. Ça se fait partie de la... des écritures, des saintes écritures de la génération hippie.
Hein, ah, complètement. Et puis, Sédou, par exemple, et Jodorowsky compare le roman de Dune à un roman proustien. Enfin, c'est-à-dire que... et même plus compliqué encore. Ils disent que c'est vraiment un délirium littéraire. Et effectivement, quand on lit Dune, outre la grandiloquence du roman, magistral, hein, cela dit, enfin, des romans, il faut quand même s'accrocher les 100 premières pages, parce que c'est...
Il faut s'approprier un univers, une langue, une religion, une langue, une histoire.
Les personnages, il y a tellement de...
C'est une
foison de personnages, en fait, que l'on s'approprie au fur et à mesure, et ça en fait vraiment, effectivement, un roman littéralement passionnant.
Du coup, on est très très loin de la... la simplicité de la Guerre des Étoiles,
par exemple,
ce qui essaierait de comparer.
Là, on est plus
dans
la BD.
Il y a un grand bonhomme qui a essayé, lui aussi, d'adapter le film, c'est M. David Lynch.
Alors, David Lynch, qui a récupéré un petit peu le bébé de Dino De Laurentiis, qui était le producteur, en fait, qui a récupéré le projet et qui a fait réécrire le scénario pour être un peu plus proche du roman. D'en faire un récit simpliste. Alors David Lynch, pour le coup, voulait faire un film de 5 heures, alors que Jodorowsky voulait faire soit un film de 3 heures, 5 heures, 12 heures, 12 peut-être 14 heures, voilà, plus. Alors que...
En tout cas, le David Lynch est considéré comme un de ses films ratés.
Raté dans la première heure, parce que c'est assez fidèle à l'esprit d'Herbert. Passer la première heure, c'est je dirais une catastrophe, même surtout d'un point de vue montage, parce qu'on sent un film qui aurait dû faire 5 heures, il en fait que 2 heures et quart, et c'est
des personnages un petit peu ridicules.
C'est un film qui a extrêmement vieilli.
Alors il existe également une, on disait pas série à l'époque, mais un feuilleton, c'est-à-dire qui est relativement fidèle au roman, c'est un truc qui doit durer 4 heures,
c'est ça.
Mais qui, effectivement, n'avait pas les mêmes moyens que ce qu'aurait pu avoir Jodorowsky. Alors, si vous pouvez voir le Jodorowsky's Dune, il faut vous précipiter. Ça raconte l'histoire du plus grand film de tous les temps qui n'a jamais existé.
C'est ça, vraiment un film hilarant, hein, vraiment des trucs
Et puis, si ce n'est pas encore fait, essayez de lire au moins les deux premiers tomes de Dune suivi du Messie de Dune. Ça existe en poche maintenant, mais accrochez-vous. C'est dense.
Ah oui, c'est dense. Et puis même si on est un petit peu découragé à un moment, non, il faut vraiment se motiver, parce qu'au bout d'un moment, on passe le pas et c'est vraiment génial.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi quand même, Joe, c'est que depuis, Jodorowsky écrit toujours pour le cinéma, mais il a également beaucoup travaillé pour la bande dessinée. Je pense à la série L'Incal avec Mébius,
les Métabarons, L'Incal, les Métabarons, les Technopères qui sont
Et puis on trouve dans les bacs DVD en solde, on trouve quelques films actuellement de Jodorowsky. Si vous pouvez voir El Topo, la montagne sacrée, vous allez découvrir quelque chose d'impensable aujourd'hui en 2016. Et puis peut-être que les porte de la perception Centre-Bayrouin,
un tantinet. Mais j'insiste aussi sur Santa Sangre pour le DVD aussi.
Merci Joe pour ce film Prince. En 87, avec, à mon avis, l'un de ses meilleurs groupes, il enregistre un album qui s'appelle Sign of the Times. C'est deux albums après le succès de Purple Rain. C'est un album des Beatles funky, moi, j'ai envie de dire. Il a un groupe féminin, en particulier la section rythmique qui est carrément géniale. Et le titre que j'ai retenu de cet album, Sign of the Times, s'appelle Sign of the Times, mais c'est Prince.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time. Thank you.
Prince, Sign of the Time, 1987, superbe basse, superbe rythmique. On change de style, hein, ça va être un petit peu moins funky, tout aussi ruisselant quand même, de sueur. Hein.
Et bien. Oui, chers auditeurs, bonne nouvelle, les Vikings existent encore. Preuve en est avec Amon Amarth, ce groupe de death metal inspiré du Seigneur des Anneaux, qui a sorti le 25 mars son 10e album, le bien nommé Jomsviking. Le premier titre, First Kill, annonce la couleur avec un riff déchaîné et vous fera pousser une barbe et un casque à cornes en 4 minutes 30, la preuve maintenant.
I'm not afraid to die.
First Kill, donc, suivi de Wanderer, qui témoigne d'une évolution du style du groupe, tant au niveau instrumental, qui sonne beaucoup plus mélodique et orchestré, qu'au niveau de la voix, que le charismatique chanteur Johan Hegg semble pousser à sa limite. Donc on tombe à fond dans le caverneux. Pire que maintenant. Ensuite, on quitte l'aspect mélodique avec On a Sea of Blood, balancé avec une rapidité déconcertante et qui plaira donc à tous les amateurs de Headbang. Sur ce disque, d'ailleurs, force est de constater que Amon Amarth soigne ses solos avec une précision qu'on ne leur connaissait pas encore. One Against All est estampillé Viking Metal pour le côté épique de ses paroles et le chant guttural qui est la pierre angulaire de tout bon groupe du genre qui se respecte. On attaque le noyau dur du disque avec Raise Your Horns, morceau taillé pour le live. Le groupe l'a d'ailleurs interprété lors de son passage au Dimanche du Monde il y a un mois. Avec un refrain qu'on peut reprendre au cœur, chope de bière à la main, comme c'est le cas pendant le solo. On poursuit dans le fulgurant avec The Way of Vikings, très soigné avec son intro à la Hans Zimmer, qui lui ne fait pas de métal. Le morceau est construit sur une montée progressive de la violence, et l'ambiance de l'intro est peu à peu remplacée par la rapidité de l'instru. Alors on l'écoutera un peu plus tard, à Dawn's First Light et son Killer Riff nous montrent qui sont les patrons du métal nordique et pourraient bien voler la vedette à Anthrax lors du Download Festival en juin. Album sorti à peu près en même temps, on voit qui sont les meilleurs. 1000 Burning Arrows est de ces chansons qui vous donnent des frissons dès les premières notes. On pense à Runes to My Memory ou Cry of the Blackbirds, deux des meilleurs titres de leur album sorti il y a 10 ans, With Odin on Our Side. Et on se dit aussi que tout viking dans l'âme ne pourrait vouloir d'autres chansons à son enterrement. Mais on quitte les frissons pour les pogos à l'écoute de Vengeance is My Name, qui n'est pas ce que l'album a de mieux à offrir, mais qui saura se défendre sur scène. Puis c'est un fait encore inédit dans la discographie de Amon Amarth, A Dream That Cannot Be est un featuring, et pas avec n'importe qui, avec Doro Pesch, la Metal Queen, connue pour avoir chanté l'hymne du festival de Wacken en Allemagne, We Are the Metalheads. Donc sa voix apporte un son nouveau, et bien qu'elle soit rauque, elle contraste avec celle de Johan Hegg pour un mélange qui est loin d'être déplaisant. Back on Northern Shores, comme toutes les autres conclusions d'albums du groupe, dure 7 minutes et réussit à être captivante jusqu'au bout. En bref, Yom's Viking est un album intéressant parce qu'il réussit à garder le son des débuts qui fait le succès d'Amon Amarth, et en même temps il réussit à se réinventer et à repousser les limites du viking metal, et donc pour l'instant je serais tenté de dire que c'est leur meilleur album. Voilà. Alors on va écouter At Dawn's First Light et préparez-vous, ça décoiffe.
We'll be right back.
vous êtes dans Champ Libre sur les ondes de Couleur FM, mais c'était la petite séquence musique de chambre. Ouais, va écouter ça dans ta chambre, Damien. Non, merci, tu peux revenir le mois prochain pour le prochain disque métallique.
Ce sera un peu moins extrême.
Paraît-il. Prince, retour à Prince, album de 91, Diamonds and Pearls, paraît-il, un album pas terrible, sauf que dedans, il y a un morceau qui s'appelle Cream, et bah, c'est mortel. Oups. Technicien a pris trop de LSD, donc on va inverser les plages. Merci Lolo. Prince. C'était le bon titre, là, Cream, extrait de l'album Diamonds and Pearls. On en parlait avec Joe, là, hors antenne. À l'époque, Prince enregistrait sous le nom de Prince et the New Power Generation. Volontairement, dans cette émission, j'ai oublié celui qui s'appelait autrefois Prince. Enfin, voilà, toutes les démêlées du bonhomme. Avec les maisons de disques, comment récupérer son nom, pouvoir récupérer sa musique enregistrée comme il voulait. C'est quand même quelqu'un qui s'est battu contre l'industrie du disque de l'époque en disant c'est l'artiste qui devrait être propriétaire de tout ça. Tu me diras aujourd'hui, Joe, c'est pire parce que c'est plus les maisons de disques qui sont propriétaires des œuvres musicales. Ce sont ceux qui se les approprient légalement, qui en deviennent propriétaires.
Oui,
alors je sais que je suis en train de virer doucement dans la provocation, puisque certains de mes auditeurs trouvent que c'est bien normal de voler dans les supermarchés. Pardon, de pirater les disques. mais vous allez comprendre pourquoi. Damien nous a parlé de musique métallique. Joe nous a parlé de cinéma. Moi, je voudrais vous parler de mots écrits sur du papier, de littérature. Alors, j'ai lu plusieurs bouquins ce mois-ci, et j'en ai retenu deux, je citerai peut-être les autres ensuite, mais un roman pour commencer. Le bonhomme qui a écrit ce roman s'appelle Monsieur Dave Eggers, E-D-G-E-R-S. Le roman est sorti chez Gallimard, et il est intitulé Le Cercle. Alors, voilà le pitch.
Le pitch.
Une jeune femme, May Holland, qui est sortie de l'université il y a quelques années, qui travaille dans une administration américaine, va être recrutée par une de ses ex-amies d'université dans l'entreprise The Circle, le cercle. Si vous êtes un peu au fait des choses, au bout de 3 pages dans le roman, vous comprenez que le cercle, c'est Google. Hein? En tout cas, quelque chose qui ressemble étrangement à Google. Alors, que vient de faire le cercle dans ce monde-là? Eh bien, l'entreprise vient juste de devenir l'entreprise la plus puissante du monde grâce à un système qui s'appelle TrueYou. Toi vrai, le vrai toi. TrueYou a aboli l'anonymat sur Internet et unifié tous les services du net. Donc la ressemblance avec Google n'échappe à personne et les valeurs transparence, civilité et partage sont les piliers de ce nouvel âge numérique dicté par une entreprise privée. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte l'auteur ? Eh bien, il nous dit que dans un avenir très proche, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est dans quelques mois, dans un avenir très proche, on va se retrouver dans un univers totalitaire, et qu'on est pris en ce moment, à travers les réseaux sociaux et ces grandes entreprises du net, dans un engrenage qui nous conduit tout doucement vers un cauchemar totalitaire, économique et technologique. Alors, comment ça se passe dans le roman ? Eh bien, au lieu de nous raconter la vie des résistants contre le système, on nous explique comment la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, May Holland, va petit à petit va être absorbée par le système du cercle, va devenir prosélyte, va essayer d'entraîner tout le monde, y compris ses parents, y compris son ex-petite amie qui ne trouvera pas d'autre solution pour échapper à la chose que de se flinguer au sens propre du terme. Alors, c'est quoi les arguments de l'auteur ? Eh bien, il est dans le système du cercle, ça ressemble encore une fois extrêmement à ce qui est en train de se dessiner depuis quelque temps, on ne peut pas refuser de prendre part au système. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le système, vous êtes rejeté par les autres. Alors vous êtes ringard ou vous êtes carrément un marginal, vous n'êtes plus reconnu. Ceux qui s'écartent du système sont des parias. Ceux qui sont à l'intérieur du système sont en compétition. Tout le monde, dès le matin, le soir et en journée, a l'œil fixé sur son écran au compteur qui dit « tu as plus d'amis ou tu as moins d'amis, tu es monté en participation ou au contraire, tu descends en participation. Et les grandes phrases clés du système, c'est, il y en a trois, les secrets sont des mensonges, rien ne doit être secret, la vie privée, c'est du vol, et partager, c'est prendre soin des autres. Si je ne partage pas avec vous tous mes secrets, je vous vole. Alors l'exemple tordu qui est utilisé par les prophètes de ce monde, c'est il y a un petit gamin paralysé dans son siège, tu lui montres, si tu ne lui montres pas ce que tu viens de faire cet après-midi, ben, ce gamin ne verra jamais ce que tu as vu, toi, valide, cet après-midi. On va culpabiliser jusqu'à ce que... Voilà, donc le système du cercle, c'est que l'individu se doit de s'effacer face à la communauté, c'est-à-dire à l'humanité. Garder pour soi un sentiment, une expérience vécue, ça revient à voler les autres l'opportunité de s'enrichir. Et petit à petit, dans le monde du cercle, la planète se couvre de petites caméras. Et tout doit pouvoir être capté, enregistré. Donc on va voir des politiques qui vont se balader avec une caméra autour du cou, afin qu'on voit ce qu'ils font en permanence, pour ce qu'on ne puisse pas dire qu'il triche, etc., etc.
On ne peut pas considérer que ce soit un roman d'anticipation ou de science-fiction. Je l'ai
jamais dit.
On est en plein...
Ouais. Jamais dit. Alors justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce roman est présenté comme une dystopie par toutes les critiques littéraires, alors qu'en fait, ça raconte ce monde. Pour avoir vécu un peu dans le monde Google ces dernières années... Je suis assez troublé, comme tu dis, Joe. Voilà, Le Cercle de Dave Eggers.
J'avais lu un livre de Dave Eggers qui s'appelle Suive qui peut, et à lire également. Très, très bon.
Voilà, en tout cas, celui-ci, chez Gallimard, je vous le conseille. Deuxième bouquin dont je voulais vous parler ce soir, un livre de Patti Smith, la grande Patti Smith. Le bouquin s'appelle M-Train, c'est chez Gallimard aussi, je n'ai pas fait exprès. Ceux qui sont accros à la littérature rock, qui voudraient une biographie du Patti Smith Group, etc., ben vous allez être déçus, c'est absolument pas ça. C'est de la littérature, c'est plus proche des glaneurs de rêves que de Just Kids, son premier bouquin. C'est autobiographique, mais c'est surtout de la littérature. Alors, à travers des lieux qu'elle a visités dans le monde, à travers des personnes, mais également à travers des petites anecdotes, elle laisse son rêve éveillé filer comme ça. J'ai envie de dire que le seul point commun de toutes les séquences, ça serait le café. La boisson, le café, elle explique qu'elle est accro au café, et qu'elle soit au Japon ou quelque part du côté de Détroit, tout tourne autour de cette chose-là. Voilà, donc M Train de Patti Smith, ça met en scène Patti Smith, une femme solitaire, son mari est mort, hein, le grand Fred Sonic Smith est mort, son frère est mort peu de temps après, elle est seule, et... comme elle le dit, elle est en proie à un malaise léger mais persistant, pas une dépression, davantage une fascination pour la mélancolie. Donc c'est une femme qui vit dans son appartement de Greenwich Village, avec ses chats, sans emploi du temps, sans horaire régulier. Chaque jour, à un moment ou à un autre, elle prend son manteau noir, toujours le même, qu'elle va perdre d'ailleurs au cours du livre. Elle sort, elle traverse la rue, elle retrouve sa table attitrée au café d'en face, toujours la même table. Et là, elle réfléchit, elle pense à son enfance, à son père, à ses rêves, à ses voyages avec Fred, à sa famille. Voilà. M-Train, c'est pas un livre tragique. Elle le dit aussi, elle dit « La perte est une chanson douce et la mélancolie ne se fait jamais pesante. » M-Train de Patti Smith. J'aimais beaucoup... Patti Smith, la chanteuse, Orsiz, etc., ça a quand même été une grande claque. C'est quelqu'un, à mon avis, de digne, parce que les combats qu'elle mène, elle les mène depuis toujours, elle les mène encore. Toujours, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie du grand cirque du rock'n'roll. Elle a rejoint la famille dont elle rêvait depuis toujours. cette famille dont les membres s'appellent Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Paul Bowles, Arthur Rimbaud, etc.
Ouais, voilà. Qui s'oriente davantage et mieux encore vers la littérature. Je trouve ça devient vraiment une romancière à part entière, en fait.
Très, très bien écrit. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, ne vous précipitez pas sur ce bouquin comme sur un roman qui vous raconterait l'histoire du punk à New York. Vous allez être déçus. Mmh. Acceptez de rêver avec elle. Il ne se passe rien dans ce bouquin. Elle le dit dès le départ. Écrire sur rien, c'est difficile. Il est bien plus facile de ne parler de rien. Voilà. Partie littéraire. Damien, on se retrouve le mois prochain pour un...
Eh oui, pour une chronique de métal, toujours.
En métal. Joe, il y aura certainement des DVD ou des films intéressants.
Pas complètement, sûrement.
Et on se sépare avec un autre titre du Grand Prince. The Everlasting Now, c'est extrait de l'album The Rainbow Children de 2001. Ça fait encore partie de ces albums méconnus du bonhomme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Laurent pour la technique. Et à la semaine prochaine.
Bonne
Bye.
Soirée.
Bonne soirée.
and wedding cake. You should die before you wake. You got any last requests to make?
She play like he used to, old scraggly hair from him.
Don't let nobody know.